Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence des résultats du premier semestre 2014 d'Albioma. En présence de Jacques Petri, président directeur général, et Julien Gauthier, directeur administratif et financier. Pour votre information, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée. À présent, je voudrais donner la parole à Monsieur Jacques Petri. Monsieur, c'est à vous.
Merci, madame. Ici Jacques Petri. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, je suis effectivement accompagné de Julien Gauthier, directeur financier, et nous allons vous commenter ce soir les résultats du premier semestre 2014. Ces résultats sont caractérisés par trois points importants qui sont d'une part le très très bon démarrage de la centrale biomasse thermique au Brésil, et je vais y revenir. Deuxièmement, le fait que nous avons été lauréats d'un appel à projet pour la construction et l'exploitation d'une centrale de pointe de 40 MW à La Réunion. Et enfin, pour résumer les bons chiffres économiques, la confirmation des objectifs 2014 et 2015. Si je commence donc par qui nous sommes, parce qu'il est important de vous rappeler en quelques mots qui nous sommes, parce que certains d'entre vous peut-être nous connaissent moins bien. Je vous rappelle que nous sommes le leader mondial de la valorisation à haute performance énergétique de la bagasse et de la biomasse. Nous avons à peu près 700 MW installés. Nous sommes dans le monde du renouvelable un acteur de la production d'électricité de base. Nos usines sont disponibles en moyenne plus de 8000 heures par an. Donc, nous résumons ça souvent par du 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Nous avons des contrats de vente avec EDF ou l'homologue de EDF à Maurice, le CEB, qui sont sécurisés à long terme, environ 20 ans restant à courir. Nous sommes un acteur de la valorisation soit par combustion, soit par méthanisation de la biomasse, sans conflit d'usage. Enfin, nous avons une activité dans le domaine du solaire qui a une très très forte rentabilité, vous le savez. Dans les départements d'outre-mer et à l'île Maurice où nous intervenons, nous sommes un acteur incontournable de la production électrique avec entre 30 et 60% de la production d'électricité de ces îles. Et enfin, au Brésil, nous sommes décidés à nous développer. Nous en avons fait la priorité du groupe à l'international. Vous avez en page 6 l'escalier vert qui présente nos capacités de production à partir de la bagasse. Et la dernière marche de l'escalier représente l'achat de l'usine de Rio Pardo au premier semestre. Et pour la page 7, vous avez à la fois le complément d'offres avec le solaire, activité en pleine synergie, puisque évidemment, là où il y a de la canne à sucre, il y a du soleil, et nous avons bénéficié dans les DOM de tarifs et de contrats tout à fait intéressants. Et d'autre part, nous avons choisi de nous développer aussi en biométhanisation, complément d'offres, à la fois en France sur le gisement des déchets agricoles et agro-industriels, mais aussi à moyen terme au Brésil sur la méthanisation des mélasses et vinasses de sucreries qui sont les déchets liquides de ces sucriers. Et donc, à côté de la valorisation de la bagasse, nous aurons un jour la valorisation des mélasses et vinasses. Si je passe maintenant aux événements marquants du premier semestre. Pour ce qui concerne la France, nous avons donc une disponibilité de nos installations qui, pour le premier semestre, est de 87,6%. Cette disponibilité est en légère baisse par rapport à l'année dernière et résulte de deux incidents techniques, l'un à La Réunion, l'autre aux Antilles. Pour ce qui concerne celui de Bois-Rouge, à La Réunion, nous vous en avions parlé, il s'agissait du dysfonctionnement d'un groupe turbo-alternateur. Nous avons anticipé révision annuelle de cette usine pour, à l'occasion de cet incident technique, faire l'ensemble de la révision de l'année. Pour ce qui concerne Albioma Le Moule, en Guadeloupe, nous avons eu un court-circuit d'un stator alternateur qui a provoqué une indisponibilité de cette usine. Et comme nous avions prévu de faire un arrêt programmé de l'usine voisine sur le même site que nous appelons Albioma Caraïbes, anciennement Caraïbes Énergie, eh bien nous avons décalé l'entretien programmé de Albioma Caraïbes. Toutes les autres installations ont eu une bonne performance et donc sur l'ensemble de ces usines, nous avons la confirmation pour l'année 2014 de l'objectif habituel de 90 à 92% de disponibilité. Vous vous rappelez que dans les deux dernières années, nous étions légèrement au-dessus de la partie haute de la fourchette, puisque nous étions par exemple l'année dernière à 92,3, et donc nous confirmons que cette année nous serons à l'intérieur de la fourchette 90-92. Enfin, je voudrais signaler un point important qui avait été un impact très positif l'année dernière, qui était le taux d'appel très élevé de la centrale de pointe du Galion, qui avait fonctionné de façon exceptionnellement importante à cause de problèmes sur le réseau électrique de la Martinique. Nous revenons cette année à des taux d'appel normaux. Méthanisation, biométhanisation. Vous savez que nous avons deux usines sont aujourd'hui en fonctionnement, qui sont toutes les deux dans la région de Thouars, dans la région Poitou-Charentes. L'une type R de mégawatts, l'autre capteur 500 kilowatts. Et nous sommes dans la montée en charge progressive de ces deux installations. Nous avons par ailleurs trois nouvelles centrales qui sont mises en chantier. Deux sont actuellement en construction, celle de Saint-Aire et celle de Humap dans les Ardennes, et nous envisageons la mise en construction d'une autre centrale avant la fin de l'année. Ces cinq installations représentent des outils que nous sommes aujourd'hui en train de maîtriser avec des contraintes spécifiques liées à la méthanisation des déchets agricoles. Vous savez qu'en Allemagne, les méthaniseurs fonctionnent pour beaucoup à partir de maïs, donc un gisement homogène et régulier. Nous sommes, nous, sur des gisements différents, parfois plus complexes, à partir de déchets agricoles. Donc nous sommes dans la phase d'optimisation industrielle de ces centrales. Ce sont des outils industriels d'un ordre de complexité comparable à celui de nos usines thermiques, et donc nous sommes au travail sur l'optimisation de ces process. Nous engagerons de nouveaux projets après la validation de la rentabilité de ces centrales existantes. Activité solaire. Nous avons une très belle performance avec une augmentation de la production de 2% grâce à un très bon ensoleillement sur l'ensemble des zones, en particulier à La Réunion. Je vous avais parlé de notre ambition de nous développer progressivement dans le photovoltaïque avec stockage, c'est-à-dire avec des batteries qui permettent un lissage de la production. Notre première usine sera inaugurée très prochainement. Elle est installée sur le toit du nouveau centre commercial Leclerc à La Réunion. C'est 1 MW installé et nous la mettrons donc en service dans les semaines prochaines. Un mot sur l'île Maurice, avec une très bonne disponibilité de nos installations, en forte croissance par rapport à l'année dernière, et simplement à signaler le fait que, en application de la recommandation AMF 2011-16, le résultat de ces entités, qui sont détenues, vous le savez, à 25% par Albioma, et consolidées par mise en équivalence, le résultat sera intégré au résultat opérationnel du groupe EBITDA et EBIT. Donc il s'agit d'un traitement comptable relativement simple. Passons maintenant au point important du Brésil, qui est l'événement majeur du premier semestre et dont je vous ai déjà parlé lorsque nous avons présenté nos comptes au mois de mars Vous savez que c'est une usine Rio Pardo Thermoelectrica que nous avons pris en main depuis le 31 mars. La campagne a démarré de façon très positive avec une sucrerie qui traite environ 12 000 tonnes de canne à sucre par jour. Nous avons mis en place, et vous le voyez sur votre écran, une usine de séparation de la paille et de la canne qui nous permet de valoriser un complément de biomasse à côté de la canne à sucre, qui sont en gros les feuilles de la canne qui n'étaient pas valorisées jusqu'à présent. Et cette usine aujourd'hui fonctionne. Nous avions prévu de la financer dans le cadre de notre accord avec les partenaires sucriers. Avec ces partenaires, la relation est très bonne et ils apprécient d'avoir une usine de cogénération qui fonctionne à plein. Et le rendement énergétique de cette centrale s'améliore de façon significative, en ligne avec les objectifs à 2 ans que nous avions fixés et que nous vous avions annoncés. Si vous regardez donc ce slide de 17, vous voyez que la disponibilité de la vapeur, donc la vapeur qui est disponible pour le sucrier, est presque à 100%, 99,8%. Cette disponibilité, c'est ce qui permet au sucrier de fonctionner tous les jours grâce à la vapeur que nous produisons. Et par ailleurs, nous produisons de l'électricité, et si vous regardez la partie droite de l'écran, vous voyez que sur le premier semestre 2014, nous avons produit 28,7 gigawattheures à comparer pour le premier semestre de l'année dernière à 22,6 gigawattheures. Il se trouve que comme la campagne a démarré plus tard cette année que l'an dernier, le 28,7 a été produit sur à peu près 2 mois et 1 semaine à comparer à l'année dernière qui était produit sur environ 3 mois. Donc vous voyez que la production fonctionne bien avec une très bonne maîtrise technique des équipements et par ailleurs nous avons vendu cette électricité à un très bon tarif profitant de tarifs spot qui sont élevés et nous avons en moyenne vendu pour au prix de 590 réals par mégawattheure. En gros, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le réal, vous divisez par 3 pour avoir le chiffre en euros. Vous vous rappelez que nous avions basé notre projet tel qu'on l'avait commenté auprès du marché sur une hypothèse de prix hors inflation à 130 à 150 réals du mégawattheure. Donc ces premiers mois sont tout à fait excellents par comparaison aux hypothèses que l'on avait prises qui étaient prudentes. Ça, c'était les premiers mois les mois du premier semestre. Si vous regardez maintenant le second semestre et au-delà, nous avons vendu par avance, prévendu, une part significative, environ 60% de la production électrique du deuxième semestre de l'année 2015 et de l'année 2016. Et nous avons vendu à des tarifs qui sont élevés, qui sont 470 réals pour le deuxième semestre, 350 pour l'année 2015, 180 pour l'année 2016. Et nous avons vendu en moyenne 60% de la production prévue. Pourquoi 60%? Eh bien, ça nous permet d'abord de sécuriser la part de cash flow que nous avons, qui est nécessaire au service de notre dette. Nous avons mis en place des financements et donc nous apportons ainsi le confort nécessaire à nos financeurs. D'autre part, si un jour nous avions une panne, nous ne pouvons pas nous engager à vendre 100% de la production et donc il faut que nous gardions une part de marge de manœuvre. Et enfin, nous avons sécurisé la part qui est nécessaire au service de la dette. En revanche, si les prix spot restent très élevés et aujourd'hui les réservoirs hydroélectriques sont très bas, donc il est probable que les niveaux spot vont rester élevés, eh bien nous avons toujours la possibilité de bénéficier de l'upside avec des prix spot élevés. Donc globalement, nous avons maintenant sécurisé 2014, 2015, 2016 à hauteur d'à peu près 60% de la production attendue. Donc vous voyez que ce Brésil qui a démarré maintenant depuis disons 3 mois a démarré dans de très bonnes conditions avec à la fois une performance technique qui est bonne et un accès au marché électrique de vente d'électricité tout à fait satisfaisant et bien supérieur aux hypothèses que nous avions prises. Et vous verrez dans les bridges que Julien va commenter maintenant que le Brésil commence dès à présent à contribuer de façon significative. Julien, à toi.
Bonjour à tous. Je vais vous commenter nos résultats financiers qui, vous le constaterez, sont solides en dépit des deux incidents dont Jacques a parlé sur nos centrales thermiques dans les DOM. Je vous propose de vous commenter le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires publié l'année dernière était de 153,9 millions. La première variation qu'on peut commenter concerne le prix des matières premières qui a été négative de 3,9 millions. Le charbon et le cours du charbon a continué à baisser. Hein, c'est une évolution qu'on observe maintenant depuis 3 ans et elle a baissé sur le semestre. Je vous rappelle que ça impacte négativement le chiffre d'affaires mais que l'effet sur l'EBITDA et le RNPG est très résiduel dans la mesure où on a des clauses de passerou et d'indexation dans nos contrats avec EDF. Autre effet, autre variation par rapport au premier semestre 2013, c'est la baisse contractuelle de la prime fixe de notre centrale Albioma-Lemoule. Cette baisse, on l'a annoncée depuis longtemps, elle est prévue dans nos contrats. Nos contrats historiques comportent tous, au moment de la baisse du service de la dette, et ça a été le cas sur cette centrale du Moule fin 2013, le service de la dette a été divisé par 2. En conséquence, la prime fixe corrélativement a baissé sur une année pleine de 5 millions, donc on retrouve un effet sur le semestre de 2,5 millions. Parallèlement, on a observé sur le semestre une hausse des primes fixes liée à l'indexation et aux négociations qu'on a menées l'année dernière avec EDF. Cette hausse et cette variation est de 1 million positive. Les deux effets suivants que vous trouvez dans le bridge sont une baisse du bonus-malus de 400 000 euros et un effet volume sur les centrales de base de moins 5,6 millions d'euros. Ces deux effets négatifs sont principalement liés aux deux incidents qu'on a eu sur la centrale de Bois-Rouge en début d'année et du Moule plus récemment. L'effet bonus-malus, comme vous le constatez, est uniquement de 400 000 euros. C'est parce que, par ailleurs, au-delà de ces deux centrales, Albioma Caraïbes, Albioma Le Gol ont extrêmement bien performé. On a également un effet important hein, de moins 11,7 millions sur notre centrale de pointe, qui est la conséquence de ce que Jacques a présenté tout à l'heure, d'un retour à un taux d'appel plus normal, entre 15 et 20%, en l'occurrence un peu plus de 16% sur le premier semestre, à comparer au niveau extrêmement élevé de l'année précédente, qui était à plus de 30% sur le premier semestre. En variation positive, hein, qui tire le chiffre, qui compense ces quelques effets négatifs, on retrouve le chiffre d'affaires sur le premier semestre du Brésil de 5,4 millions. L'année dernière, on a été à zéro à la même époque puisque l'opération n'avait pas été réalisée. Donc, on finit le semestre avec un chiffre d'affaires de 166,7 millions. La plupart des effets que je viens de présenter, vous le verrez, le transparent suivant, on ne les retrouve pas, que ce soit l'effet prix matières premières ou les effets volumes sur nos centrales de base, sont des effets inhérents au chiffre d'affaires, mais nos contrats sont tels que on fait peu de volume, peu de marge sur la partie volume, et donc ça n'impacte pas l'EBITDA et c'est très important. Et vous le voyez tout de suite donc sur le slide de la page suivante. On a reporté l'année dernière un EBITDA de 75,6 millions d'euros. Je vous rappelle que cet EBITDA était composé d'une partie qu'on avait qualifié d'exceptionnel hein, lié aux négociations qu'on a eues avec EDF au premier semestre 2013. Donc il y avait 13,8 millions de rétroactivité et charges exceptionnelles. Cette rétroactivité concernait 3 années avant 2013, 2010, 2011, 2012, pour lesquelles nous avions eu une compensation qui n'est évidemment pas récurrente. Parallèlement, nous avions eu une hausse des tarifs jusqu'à la fin des contrats que vous allez retrouver un peu plus tard. Donc au niveau EBITDA, on retrouve un effet négatif sur la prime fixe de moins 2,5 millions, la hausse de prime fixe de 1 million que j'ai déjà commenté, l'effet bonus-malus. Par contre, pas d'effet volume sur nos centrales de base parce que nous faisons pas de marge ou quasiment pas de marge sur ces contrats et sur ces centrales. L'effet volume sur la centrale de pointe par rapport à l'année dernière est de moins 2,2 millions. Un léger effet sur nos inventaires de charbon de 0,5 millions. En positif, on retrouve le Brésil et l'EBITDA du Brésil sur le semestre s'élève à 3 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est tout à fait significatif. Et enfin, pour finir, la dernière brique verte et la variation positive sur le semestre est essentiellement liée au règlement d'un litige avec un fournisseur solaire. Donc on finit le semestre à 64,1 millions d'euros d'EBITDA. Et dans ces, 160, dans ces 64,1 millions d'EBITDA, il y a 4 millions qu'on considère comme exceptionnels. Si on, pour parler du RNPG, l'année dernière, le RNPG au 30 juin 2013 s'élevait à 28,2 millions d'euros. On retrouve évidemment tous les éléments de rétroactivité exceptionnelle qu'on avait touchés au premier semestre 2013. Et en plus, il y avait, pour ceux qui n'étaient pas là, 5,6 millions de plus-value de cession de l'éolien. Donc la base récurrente de notre RNPG 2013 était de 16,3 millions d'euros. Je ne vais pas recommander les effets qui sont similaires à ce qu'on a au niveau EBITDA. Je vais juste commenter les différences. En plus des effets positifs brésiliens qu'on a déjà commentés, on a une amélioration du résultat financier sur le premier semestre, essentiellement liée à la baisse des taux d'intérêt hein, et au fait qu'on est très peu tiré sur nos lignes court terme au cours des derniers mois. Et par ailleurs, dans la brique autre que vous voyez, on retrouve le règlement du litige et il y a une reprise de provision sur un projet Marie-Galante qui est de nouveau très actif. Donc on finit le semestre à 20,7 millions de RNPG, dont 17,7 qu'on qualifierait de récurrent. On est en hausse de 9% par rapport à l'année dernière à niveau comparable. Un mot sur le cash flow et sur l'évolution de notre trésorerie au cours du semestre. Vous avez sur la brique de gauche, la colonne de gauche, les ressources et comment on a utilisé notre argent. On a généré 38 millions de flux de trésorerie opérationnelle sur le premier semestre et on a levé 99 millions de nouvelles dettes. C'est essentiellement la nouvelle émission obligataire qui a été réalisée, je vais vous en parler par la suite. En termes de dépenses, on a servi notre dette à la fois en remboursant les emprunts existants qui ont été refinancés, payer nos intérêts. Et la nouvelle importante sur le semestre, c'est la colonne grisée en rose, les investissements pour 55 millions. C'est la première fois depuis 3 ans qu'on atteint ces niveaux d'investissement significatifs, complètement en ligne avec notre ambition de dépenser une centaine de millions d'investissements et de croissance, de développement. Donc vous voyez que sur le semestre, on est complètement en ligne avec cet objectif, avec 47 millions d'investissements de développement qui viennent du Brésil, de la méthanisation. Voilà. Pour conclure sur ce slide cash flow, on finit avec une trésorerie groupe de 104 millions au 30 juin 2014. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est en ligne avec la position de trésorerie du 31 décembre 2013, alors qu'entre-temps, on a fait l'acquisition du Brésil. Donc on a encore des moyens importants pour financer notre croissance et les futurs projets. Un petit mot sur le transparent suivant sur notre dette corporate. Nous avons refinancé au cours du semestre la dette corporate avec un placement privé, ce qu'on appelle un EuroPP, de 80 millions d'euros avec une maturité de 6,5 ans et un coupon annuel de 3,85%. Donc l'intérêt de cette opération est évident, c'est un allongement significatif de la maturité de la dette. Notre dette corporate ancienne arrivée à échéance à février 2015, c'est une diversification des sources de financement du groupe. On va, dans les mois et les années qui viennent, investir. Jacques va vous parler des différents projets dans les DOM et au Brésil. On aura besoin de nos partenaires bancaires. Là, aujourd'hui, on souscrit cette EuroPP auprès d'assureurs français et européens. Et enfin, on mobilise des ressources complémentaires pour soutenir le plan de croissance. J'ai parlé des 104 millions de trésorerie qui nous sont disponibles. Parallèlement, on a renouvelé nos lignes court terme. Et aujourd'hui, on a 40 millions de lignes court terme disponibles sur les 5 prochaines années qui ne sont pas tirées et donc n'ont pas d'impact dans les comptes. Tout ceci se transcrit et apparaît sur le tableau résumant notre situation bancaire et sur la dette. L'essentiel de notre dette est bien évidemment toujours la dette projet, qui représente au 30 juin 480 millions d'euros. La dette corporate, j'en ai parlé, c'est l'EuroPP, dans son entièrement, 80 millions d'euros. Et donc, on a une dette nette de 450 millions d'euros. La durée de vie résiduelle de cette dette est de 10 ans. Le taux moyen de la dette consolidée hors Brésil est de 4,4%. Le taux moyen de la dette au Brésil est de plus de 12%. Et enfin, 87% de notre dette est couverte ou à taux fixe. Donc nous avons une visibilité très importante et une dette sécurisée. Je vais laisser la parole à Jacques pour vous parler des perspectives et des objectifs.
Merci beaucoup, Julien. L'on commence par les DOM et les perspectives de croissance. Donc, comme je l'ai évoqué à l'instant, donc nous avons été choisis par EDF comme lauréat de l'appel d'offres lancé en fin 2013 pour la création d'une centrale, d'une turbine à combustion, moyen de production de pointe dans le sud de la Réunion. Pourquoi ce besoin ? Bien, dans le sud de la Réunion aujourd'hui, à l'heure de pointe, c'est-à-dire vers 19h, il y a des coupures de courant, il n'y a pas assez de ressources, et donc EDF souhaite construire un moyen de pointe. Nous avons fait une offre qui vous est décrite dans la page 28, qui vous montre finalement ce que nous allons faire. Nous allons faire tourner cette centrale de pointe, d'une part avec du fuel léger, d'autre part avec de l'éthanol hydraté qui est fabriqué à partir de mélasse, qui sont les résidus que j'évoquais tout à l'heure, des sucreries, des résidus liquides. Et donc cette mélasse est fermentée, distillée pour faire de l'éthanol. Et donc le côté très innovant de notre offre, c'est à la fois de pouvoir brûler du fioul si on manquait d'éthanol, mais surtout de pouvoir brûler de l'éthanol. Et cet éthanol va être produit à la fois à la Réunion par notre partenaire, le groupe COFEP, la Martiniquaise, qui dispose d'une romerie qui s'appelle la romerie de Rivière-du-Mât à La Réunion. Et donc nous allons valoriser ensemble l'un des sous-produits du sucrier du romier. Et puis d'autre part, comme il n'y aurait pas assez d'éthanol sur place, nous allons en importer de l'île Maurice, et donc nous allons créer la première biotac ou bio-turbine à combustion sur le territoire français. Et puis, à moyen terme, nous envisageons de compléter ces carburants avec des huiles de troisième génération produites à partir de microalgues. Et nous avons un partenariat avec une entreprise de réunionnaise qui s'est spécialisée sur le sujet. Ce que l'on peut dire là, c'est que EDF, en nous sélectionnant, reconnaît notre compétence, et nous sommes le seul opérateur en dehors de EDF à opérer des turbines à combustion avec la turbine du Galion. Donc nous avons la compétence et nous apportons de l'innovation. Plutôt que de brûler du fioul, nous allons brûler ce bioéthanol. Je reviens à la page précédente. Deuxième avancée majeure sur nos projets, eh bien c'est le projet du Galion dont on vous a souvent parlé. Ce projet qui était signé initialement en bagasse charbon a fait l'objet donc d'un travail important dont je vous ai souvent parlé avec EDF pour préparer un avenant qui aujourd'hui est un avenant bagasse biomasse. Nous sommes donc arrivés à un accord avec EDF. Il reste pour les deux sujets, que ce soit la turbine de la Réunion ou le sujet du Galion, il reste que ces deux avenants ou ces deux contrats doivent être validés par la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie, et nous attendons cette validation au deuxième semestre 2014. Tant que la CRE n'a pas validé, mais je considère qu'il n'y a rien de complètement finalisé, mais ce sont quand même dans les deux cas des avancées majeures très substantielles. Et nous prévoyons, sous réserve d'avoir la validation par la CRE au deuxième semestre 2014, la mise en service de ces deux projets au cours du deuxième semestre 2016. Si je passe maintenant à la récapitulation sur l'ensemble du portefeuille de projets, et vous connaissez ce cercle qui représente 1 milliard, qui est le milliard d'investissement de développement que nous prévoyons pour la période 2013-2023, eh bien nous avons ajouté dans ce camembert l'attaque de la Réunion pour 45 millions d'euros. Et donc vous voyez que progressivement, bien nous sécurisons les projets un par un. Pour ce qui concerne la France, pour faire les 600 millions que nous avions prévus initialement, eh bien entre guillemets, il nous reste simplement 45 millions d'euros à trouver entre les projets de biomasse thermique, les projets de centrales de pointe, les projets solaires et de biométhanisation. Donc nous sommes très sûrs de nous quant à notre capacité à atteindre et probablement à dépasser l'objectif des 600 millions d'euros de projets. Côté Brésil, ben, vous voyez les 43 millions de Rio Pardo Thermo Electrica et nous confirmons l'ambition de signer un projet tous les 12 à 18 mois au Brésil pour atteindre l'ambition que l'on avait fixée de 400 millions d'euros sur 10 ans. Nous sommes en discussion active avec plusieurs sucriers brésiliens. Nous sommes confortés dans notre démarche par le succès de Rio Pardo. Et maintenant, notre enjeu est de sélectionner de très bons projets pour prolonger cette très belle rentabilité de Rio Pardo par de nouveaux projets. Si maintenant nous regardons les objectifs 2014 et 2016 tels que nous vous les avions présentés, eh bien nous confirmons ces objectifs sur la base à la fois d'un très bon démarrage de la centrale de Rio Pardo, sur la base de la croissance à venir, en particulier avec les différents projets de Galion, de La Réunion et l'ensemble des projets du Pipe, et d'autre part, la croissance de notre résultat net du premier semestre hors rétroactivité et éléments exceptionnels, comme l'a indiqué Julien. Et donc, pour conclure, un premier semestre qui est marqué par la croissance, avec de nouveaux projets qui sont maintenant sécurisés, donc de la croissance, de la solidité, le fait qu'aujourd'hui nous soyons au Brésil, le fait que nous ayons cette présence dans plusieurs métiers, fait que nous avons une diversification de nos différents projets. Donc nous avons des cash flows solides et sécurisés. Et la rentabilité, eh bien vous voyez que le résultat net par du groupe continue de croître. Donc un bon premier trimestre. Et maintenant, mesdames, messieurs, je serai très heureux de répondre avec Julien à vos questions. Quel est le mode d'emploi pour les questions, madame?
Merci, monsieur Petri. La séance de questions-réponses sera conduite électroniquement. Si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Si vous utilisez un téléphone équipé d'une touche mise en silence, veuillez vous assurer que cette fonction n'est pas activée afin que votre signal soit perçu par notre équipement. Nous prendrons les questions dans leur ordre d'arrivée et dans la limite du temps qui nous est imparti. Si votre question a déjà été posée et vous souhaitez vous retirer de la liste d'attente, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 2. Une nouvelle fois, pour poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Et la première question vient de Philippe Aupatien de Natix 6. C'est à vous, monsieur.
Oui, bonsoir messieurs. Je vous félicite pour ces résultats. J'avais quatre questions en fait. La première, est-ce qu'on pourrait avoir, c'est plutôt une question de détail, le montant de la quote-part de Maurice qui est dans l'EBITDA. Alors certes, elle est peut-être pas très significative, mais ça peut nous aider un petit peu pour finaliser, on va dire, fine-tuner cet impact-là, puisque à présent, l'IFRS vous le fait intégrer dans l'EBITDA et dans l'EBIT. La deuxième question concerne le Brésil, donc très fort démarrage. Est-ce qu'on peut avoir une idée du point d'atterrissage, on va dire en chiffre d'affaires, en EBITDA et en EBIT cette année, compte tenu de la volatilité des prix sur le marché brésilien? Troisième question concerne vos guidances. Donc vous partez très très fort cette année, entre autres avec le Brésil. Vous allez remonter vos taux d'utilisation. la question est, vos guidances 14 et 16 intégraient de mémoire pas spécialement le retraitement des mises en équivalence, mais pas forcément non plus cet impact Brésil. Donc pourquoi vous n'avez pas souhaité remonter légèrement au moins vos attentes sur 2014, peut-être sur 2016? Et puis le dernier point concerne la méthanisation. Est-ce que vous pourriez nous donner les capacités installées qui sont en cours de construction sur les deux sites dont vous avez parlé, et également ces dates de mise en service? Merci beaucoup.
Merci, monsieur Ourpatian, pour ces questions très, très pertinentes. Julien, si tu veux bien, tu réponds à la question Maurice et Bilda.
Sur le Maurice, c'est assez simple. Le RNC, la quote-part du résultat Maurice est 900 000 euros sur le premier semestre. Et c'est en ligne avec ce qu'il y avait l'année dernière.
Deuxième question. Concernant l'atterrissage du Brésil, on ne va pas vous donner de chiffres. On vous a donné déjà des tarifs sécurisés pour le prix de vente au kilowattheure. L'ordre de grandeur que l'on peut évoquer, c'est une récolte d'une durée à peu près de 9 mois. Donc ça, c'est un ordre de grandeur. Comme on est sur le domaine agricole, ça peut être un peu plus, mais 9 mois. Je vous rappelle par ailleurs, et on l'avait évoqué lors des réunions précédentes, que l'un de nos enjeux, ça va être de fonctionner un peu plus que 9 mois, peut-être en stockant de la bagasse, peut-être en fonctionnant sur d'autres types de biomasse. Et aujourd'hui, on vous dit que nous avons fonctionné 9 semaines au premier semestre, puisque c'est 2 mois et 1 semaine. Donc maintenant, à vous de voir, nous sommes prudents, nous démarrons au Brésil, et donc nous ne vous en donnons pas plus à ce stade. Et bien, ça me permet d'embrayer sur le sujet suivant des objectifs 2014-2016. C'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles du côté du Brésil. C'est vrai, vous l'avez compris, que sur la méthanisation, on est sur ce travail d'optimisation du process industriel qui est un sujet qui est important. Et tant que tout ça n'est pas complètement maîtrisé, on est obligé d'être prudent sur la méthanisation. Et donc, globalement, à ce stade, il nous paraît raisonnable de maintenir la guidance telle qu'elle est. Vous savez que l'an dernier, on a revu 2 fois à la hausse la guidance. Donc, dès qu'on se sentira confortable pour le faire, on le fera, si ça doit arriver. Pour ce qui concerne la méthanisation, les capacités, je crois, vous sont données sur le slide. Donc, vous avez, sur la page 11 du slide, donc vous avez pour Tipper 2 MW et pour Capter 0,5, qui assez vite devrait être augmenté à 1 MW dans la mesure où c'est une usine qui est appelée assez vite à avoir sa capacité de production complétée et agrandie. Les sujets Saint-Air, c'est 0,5, et comme c'est le cas pour Capter, devant passer assez rapidement à 1 MW. UMAP, c'est 1 MW. Et la dernière usine, on n'a pas encore décidé laquelle nous allons démarrer, donc je ne peux pas vous dire. Donc pour ce qui est de Saint-Air et UMAP, les mises en service devraient intervenir, Julien, avant la fin de l'année?
Oui, normalement, les constructions pour les deux ont commencé, voire plus commencé. Hein, Saint-Air est quasiment achevé. UMAP, les fondations sont et la mise en chantier a déjà eu lieu. Donc on s'attend pour les deux une mise en service en fin d'année. Ça sera fin d'année, oui.
Sachant que je vous rappelle que, à la différence du thermique, il ne s'agit pas de mettre l'usine en route et puis de la démarrer comme vous allumez votre gazinière. Là, il s'agit de bactéries que l'on ensemence, qui vont monter en puissance doucement, progressivement, et donc bien, il faut du temps pour atteindre la pleine puissance. Et comme je l'ai commenté auparavant, pour ce qui concerne Tipper et Capter, on est dans cette phase de montée en puissance. Donc vous voyez qu'on est sur des processus qui sont d'ordre biologique et plus lents que le thermique.
Ça veut dire qu'on sera sur des contributions plutôt 15?
Probablement, oui.
Merci beaucoup.
Plutôt 15 pour ce qui concerne celles qui seraient mises en service, par exemple à la fin 2014, c'est peut-être même le deuxième semestre 2015.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, monsieur Ourpatian. D'autres questions?
Encore une fois, si vous souhaitez poser une question ou si vous avez une nouvelle question, appuyez sur la touche étoile suivie du chiffre 1. Merci de vous assurer que la touche mise en silence n'est pas activée afin que votre signal soit perçu par notre équipement. Nous allons prendre la prochaine question de Françoise Delva de Gilbert Dupont. C'est à vous.
Oui, bonsoir messieurs. J'avais encore quelques petits points de détail sur l'intégration donc des centrales Caraïbes. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que le 0,9 million, si je ne me trompe pas, c'est la contribution en EBITDA, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre d'affaires et le résultat net aussi, s'il vous plaît?
Vous parlez, Madame Delva, de l'île Maurice ou...
Oui, pardon, excusez-moi. Oui, l'île Maurice, excusez-moi.
Comment ça fonctionne, Madame Françoise? Comment ça fonctionne? Le RNPG, le résultat mis en équivalence, est 0,9. La recommandation de l'AMF nous autorise à remonter cette quote-part de résultat, donc on parle de résultat,
ouais,
au niveau EBITDA.
D'accord.
Mais si vous regardez l'EBITDA des centrales mauriciennes, il est bien plus élevé. On ne parle pas d'intégrer l'EBITDA des centrales mauriciennes, on parle juste de remonter le résultat mis en équivalence au niveau du résultat opérationnel, donc de l'EBIT et de l'EBITDA. Voilà.
D'accord. Et donc, on n'a rien en chiffre d'affaires, on est bien d'accord?
On n'a strictement rien en chiffre d'affaires. Cette recommandation s'applique sur le résultat opérationnel et pas sur le chiffre d'affaires.
D'accord.
Et en aucun cas, on prend un prorata de l'EBITDA ou du chiffre d'affaires des centrales mauriciennes. C'est pas du tout ça la norme que l'on suit.
D'accord. Merci pour cette précision. Ensuite, j'avais une deuxième question parce que vous avez souligné même dans votre communiqué que vous avez un taux apparent d'impôt qui est moins élevé. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les raisons et est-ce qu'on peut continuer sur ce taux-là pour le reste de l'année?
Alors, le taux apparent d'impôt a baissé essentiellement en raison du Brésil. Au Brésil, on paye un impôt qui s'appelle le lucro presumido, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires, qui est inférieur au taux d'impôt effectif qu'on paye en France. Donc, ça nous tire mécaniquement vers le bas en termes d'impôt effectif.
D'accord. Donc, on aura un impact encore un peu plus élevé, peut-être, au S2.
On peut considérer qu'effectivement, notre taux d'impôt effectif va rester à des niveaux inférieurs à ceux qu'on avait dans le passé. Quand on intègre le Brésil.
D'accord. Et j'avais une question aussi, alors sur la méthanisation, puisque vous êtes en train d'optimiser un peu le système, vous vous donnez combien de temps? Enfin voilà, vous avez 5 unités, 4 ou 5 unités qui vont être opérationnelles, enfin au moins 4 fin 2014. Vous optimisez, vous donnez combien de temps pour éventuellement relancer des investissements dans ce domaine ou faire un point, quoi?
Alors, plusieurs commentaires. Le premier, c'est, même si je ne réponds pas directement à votre question, mais je vais le faire ensuite, c'est que le pouvoir politique la ministre de l'Environnement et de l'Énergie sont complètement mobilisés pour que cette filière décolle. Madame Royal parle souvent d'ailleurs de notre projet TIPER comme un projet phare pour la France. Elle parle de 1000 à 1500 méthaniseurs en France très rapidement. Et donc, nous sommes complètement sur un marché porteur, on l'avait identifié comme tel, et ça se confirme, et le politique fait tout ce qu'il faut pour rendre cette activité rentable et efficace. Deuxièmement, nous sommes parmi ceux qui ont le plus de méthaniseurs construits. Avec nos 5 méthaniseurs tels qu'on vous les présente, nous serons parmi les tout premiers du marché. Et donc, nous considérons qu'il est normal de faire le point sur ces investissements, s'assurer de la rentabilité, vérifier qu'elle est compatible avec notre rentabilité sur nos usines du thermique, avant d'engager de nouveaux projets. Donc, combien de temps est-ce qu'il va nous falloir pour se faire un avis? Bien, je considère que c'est un sujet pour l'année 2015. Et on verra, est-ce que c'est en début d'année, est-ce que c'est en milieu d'année? Je vous redis qu'on est sur des montées en puissance lentes avec des bactéries dans les méthaniseurs, avec cette montée en charge qui est assez lente sur Tiper et Capter, Nous ne sommes pas inquiets, nous sommes des industriels, donc on va maîtriser ces process et on va les optimiser. Mais il n'y a pas d'urgence. Ce qui est très important vis-à-vis de nos actionnaires, vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise, c'est de valider la rentabilité de l'existant avant de démarrer. Donc je vous dis, c'est probablement dans l'année 2015 que l'on sera capable de prendre cette décision. Et le marché est là, il faut vérifier que la rentabilité est là.
D'accord, merci. Et je, encore une dernière et je m'arrête après.
Et je vous en prie.
Sur votre guidance 2016, vous n'intégrez pas les nouvelles centrales dans les DOM ou vous intégrez une petite partie quand même? Vous avez dit S2 2014.
Écoutez, là vous comprenez que comme on parle d'une mise en service à la fin de l'année 2016, puisque enfin au deuxième semestre 2016, on considère que oui, il y aura un peu de la mise en service de l'attaque et du Galion 2. Et puis globalement maintenant, on fait des objectifs, on vous présente des objectifs qui sont globaux. Et puis ben, c'est à nous à l'intérieur de voir comment mutualiser les éventuelles accélérations ou décalages de certains des projets. Donc on est aujourd'hui en objectifs globaux. Et évidemment, avec les projets que l'on vous présente, il y a une marge d'escalier significative en 2016 et probablement dans les années suivantes, compte tenu de tous les projets que je vous ai présentés dans le portefeuille de projets tout à l'heure.
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Merci, Madame Delva.
La question suivante nous est posée par Jean-François Grandjean de Oddo Securities. C'est à vous.
Oui, bonsoir messieurs. Deux questions. Est-ce que vous pouvez un peu de couleur sur vos estimations de génération de free cash flow d'ici à la fin de l'année? Et deuxième question, je reviens, désolé, sur la guidance 2014. Quand on regarde finalement votre objectif d'EBITDA, si j'ai bien compris, entre 123 et 126 millions d'euros, est-ce que vous avez dégagé, on peut comprendre que finalement vous pouvez établir sur une soixantaine de millions d'euros d'EBITDA sur la deuxième partie de l'année, ce qui correspond au niveau H1 hors exceptionnel, donc ce qui peut paraître assez cohérent. Néanmoins, au niveau du net, par rapport à votre guidance de 33-35 millions d'euros et le quasiment 25 millions d'euros dégagés, on aurait une contribution assez faible sur le S2 sans tenir compte des éléments non récurrents par rapport aux 17,7 millions. Alors, est-ce qu'il y a des éléments hors exploitation qui justifieraient une moindre contribution du résultat net par rapport à la contribution du premier semestre? Merci.
Julien va vous répondre, mais il prépare sa réponse. Donc.
Sur l'EBITDA et le RNPG, vous avez pu constater au cours des dernières années, il n'y a pas une très forte saisonnalité, mais malgré tout, le deuxième semestre est toujours un peu inférieur au premier. Ça, c'est le premier élément de réponse. Après, pour ce qui concerne l'éventuelle différence que vous analysez entre l'atterrissage EBITDA et l'atterrissage RNPG, je dirais que on a une visibilité à ce jour sur l'EBITDA, sur le RNPG. Il y a un certain nombre d'éléments entre les deux qu'on maîtrise un petit peu moins. On n'a pas du tout aujourd'hui prévu de modifier notre guidance. Si on voit que dans les mois qui viennent, les bons résultats se confirment, on verra si on doit la revisiter. On n'a pas beaucoup de choses à ajouter. Et il faut voir un élément important que je n'ai pas précisé, mais qui, sur le Brésil, hein, on a 3 mois d'opération, la dette est effective donc depuis peu, elle coûte plus de 12%, donc ça va avoir un impact sur un semestre plein sur le Brésil. Hein.
D'accord, merci. Et concernant la génération de free cash flow?
Alors, sur la génération de free cash flow, ce qu'on peut vous dire, parce qu'on ne fait pas de guidance hein, ou d'objectif de free cash flow, mais je pense que vous avez en tête peut-être les capex et les capex de développement. On a bien commencé l'année, hein, puisqu'on a fait, on est en ligne avec ce qu'on avait annoncé. Les événements attendus sur le deuxième semestre en termes de capex, c'est la fin des mises en chantier dont on a parlé sur la méthanisation. Vous avez compris qu'il y aurait peut-être le début de la mise en chantier du Galion 2. Donc, ce sont les événements qui peuvent impacter le free cash flow du deuxième semestre.
Voilà. Sachant par ailleurs que vous vous rappelez qu'au Brésil, nous avons un très fort taux de génération d'EBITDA et de free cash flow, donc qui devrait contribuer de façon positive aussi au second semestre.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Grandjean.
Et la prochaine question vient de Emmanuel Chevalier de CMCIC Securities.
Bonsoir. Allô?
Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur. Donc, il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. Je voulais revenir sur l'attaque, savoir si on pouvait avoir quelques précisions déjà, comment ça s'articule un peu avec vos partenaires sucriers qui ont 49% du capital. Est-ce qu'eux contribuent en termes aussi d'investissement? Comment ça se passe?
Alors, sur ce point, il y aura une société de projet. Chacun paiera sa part des fonds propres. Donc nous aurons 51%. Il était très important pour nous d'aligner nos intérêts avec ceux des partenaires sucriers qui nous apportent la biomasse. Et donc on est dans un dispositif assez classique. Vous savez qu'à La Réunion, par exemple, nous sommes d'ores et déjà partenaires avec Tereos dans l'usine du Bol. Vous savez que dans le projet de Galion 2 et dans le projet de Galion 1, d'ailleurs, nous sommes avec le groupe COFEP. Donc il s'agit là d'une association naturelle et qui nous a permis probablement de gagner ce projet.
D'accord. Quel taux d'appel vous prévoyez pour cette centrale de pointe?
Mais écoutez,
c'est un taux d'appel assez classique, comme vous parliez tout à l'heure, de 15 à 20%. C'est la norme?
Ben, on peut penser que... Alors d'abord, il n'y a pas de norme. D'abord, il n'y a pas d'engagement contractuel de EDF. EDF considère, comme c'est le cas sur l'ensemble de nos usines, que nos coûts fixes, y compris la rémunération du capital et le service de la dette, sont couverts par la partie fixe de notre rémunération. Et donc, si on était même appelé 0 kWh sur l'année, on aurait droit à aucune compensation. En réalité, on sait bien qu'il y a des manques d'électricité dans le sud de l'île. Et donc, on peut penser que la fourchette que l'on a indiquée comme étant normale, serait celle qui s'appliquerait dans les prochaines années pour cette taxe.
Sur cette fourchette-là, les métriques en termes de chiffre d'affaires, de BDA, ça c'est combien à peu près, juste pour avoir une idée, aux fourchettes larges?
On n'a pas communiqué à ce stade. En plus, il faut qu'on soit prudent parce que tant que la CRE n'a pas validé, je pense qu'il serait discourtois d'en dire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On a reçu la notification formelle par EDF du fait que nous étions le lauréat, mais donc à ce stade, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. La seule chose que je puisse vous suggérer, c'est de faire des extrapolations à partir de ce que vous connaissez.
Sur Galion 1, sur Galion, c'est combien à peu près ça, sur 15-20% de chiffre d'affaires et d'EBITDA sur une utilisation justement normative? Vous êtes à combien à peu près?
Ce qu'il faut pour reconstituer tout ça avec les bridges des années dernières et avec le bridge du premier semestre. Je ne peux pas vous en dire plus, monsieur Chevalier, à ce stade.
Je ne dis pas, monsieur Chevalier, sur les résultats centrales par centrale. Il y a quelques indications dans nos documents références sur les niveaux de production, mais on n'a jamais donné les résultats centrales par centrale. Donc, ce qu'on peut dire, et ce que Jacques a déjà dit, c'est qu'on a construit... la rentabilité de cette centrale de façon très inspirant de ce que tu faisais sur le Galion.
Ok. Deuxième question, même si vous avez déjà commencé à y répondre, sur le rythme de développement des CAPEX. Je voulais savoir à partir de quand Galion 2 va commencer à contribuer, exactement la turbine, si on pouvait avoir une idée sur S2 2014, 2015, 2016 pour ces deux projets dans les DOM, s'il vous plaît.
Galion 2, on vous a dit mise en service, objectif de mise en service au deuxième semestre 2016.
Oui.
Idem pour l'attaque.
Oui.
Donc c'est à ce moment-là que ces usines fonctionneront. Et si elles sont mises en service, disons 3 mois avant la fin de l'année ou 6 mois avant la fin de l'année, mais à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus, eh bien il y aura 3 mois ou 6 mois de partie fixe. Mais à ce stade, l'objectif global de tel qu'on vous le donne dans la guidance est notre meilleure estimation à ce jour. On ne souhaite pas...
Non, c'était sur les CAPEX en fait. Hein.
Usine par usine.
C'était sur les CAPEX en fait ce que je demandais. C'est le cadençage des CAPEX.
On peut dire qu'on dépensera les CAPEX sur le Galion dès qu'on aura l'accord définitif de la commission de régulation de l'énergie.
mais pas tout sur un an.
Non. Ah non, bien sûr que non.
Donc voilà, donc j'ai juste en fait avoir une indication sur le cadençage des CAPEX 2015-2016, c'est sur ces deux projets.
Une première cumulée. Pour ce qui concerne Galion, vous avez le montant du CAPEX.
Mm-hmm. Galion.
Vous savez que tous les permis sont déjà obtenus.
Mm-hmm.
Donc le jour où la CRE nous valide notre contrat, nous pouvons engager les travaux qui seront réalisés sur 2 ans et vous pouvez les lisser sur les 2 années qui viennent à partir de la date que vous choisirez dans votre modèle pour
d'accord.
la réalisation du contrat CRE.
Okay.
Par comparaison, et ce n'est pas là votre question, mais c'est simplement pour que vous compreniez, pour ce qui concerne Marie-Galante, nous vous avons dit il y a une année de permis, d'obtention de permis, et ensuite probablement 2 années de construction. Donc vous voyez là, les permis sont purgés, donc maintenant nous pouvons démarrer la construction de Galion 2.
Mm-hmm.
Pour ce qui concerne l'attaque, il nous faut à peu près 6 à 9 mois pour obtenir les permis,
mm-hmm.
et ensuite la construction est beaucoup plus rapide,
mm-hmm.
donc pour simplifier, considérer 1 an de permis et 1 an de construction.
D'accord. Donc les CAPEX, ça serait fin 2015, début 2016 pour l'attaque.
Ça dépend de l'hypothèse que vous allez prendre pour
d'accord.
la réalisation de la CRE, je ne peux pas vous en dire plus.
D'accord. Ok, merci.
Merci, monsieur Chevalier. D'autres questions?
Nous n'avons plus de questions en ce moment.
Très bien, mais écoutez, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention. Et Julien et moi sommes disponibles. On me fait signe qu'il y aurait éventuellement une question complémentaire ou pas? Oui,
oui, en fait.
Une question complémentaire?
Oui.
Madame l'opératrice, vous voulez nous passer la dernière question?
Bien sûr. La prochaine question vient de Françoise Delva, de Jules Père Dupont.
Oui, excusez-moi, je reviens encore un peu sur du détail. Alors, juste une chose, je voulais être sûre que l'incident sur la centrale Le Moule, il est résolu ou pas à la fin du S1?
Non, il est en cours de résolution, il déborde sur le S2 et nous prévoyons une remise en route dans la semaine prochaine.
D'accord. En revanche, Bois Rouge, c'est fini.
Oui.
D'accord. Et alors, j'avais juste un point de détail, parce que je sais que normalement, vous allez le communiquer dans votre rapport semestriel. Vous pouvez nous donner d'ores et déjà les bits DA par grande branche thermique, solaire. Allô?
Julien. Oui, Julien. Julien est en train de regarder ses chiffres.
C'est une information qu'effectivement, on donne. Donc, les bits DA thermiques, biomasse thermique France, s'élèvent à 42 millions.
Oui.
L'EBITDA du Brésil, vous l'avez dans le bridge, il est à 3.
3, oui.
L'EBITDA du solaire s'élève à 17,2 millions. Le reste, c'est tout ce qui est holding.
Holding, d'accord.
Et Maurice, 839 euros.
Voilà, 0,9, d'accord. Merci beaucoup.
Merci, Madame Delva. Merci à vous tous pour votre attention et vos questions. Julien et moi sommes à votre disposition en dehors de cette réunion si vous le souhaitez pour plus d'informations. Bonne soirée.
Mesdames et messieurs, ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation.